qui n'était pas là ce matin? Oui, c'est vrai, du coup, d'accord. Donc ce matin, je me représente alors du coup, David Lecomte, avec mon épouse Isabelle, nous sommes à Belley, au service à temps plein, par la grâce de Dieu, sous la présidence de notre pasteur de Chambéry, Jacques Rigler. Et donc, si vous permettez, pour commencer, je vais présenter un peu notre témoignage. Donc comme je vous l'ai dit, je suis médecin. Je suis fils unique. Trois générations. Et mes parents ont mis 5 ans pour m'avoir. Alors quand je suis venu, ils étaient contents. Mais du coup, ça a donné à ma maman un peu trop de présence et d'amour. Elle a fait de moi un enfant roi. Et un enfant roi, c'est pas sain. Quelque part, si on veut bien chercher, c'est une forme de maltraitance parce qu'on donne des valeurs, une importance à un enfant qu'il ne devrait pas avoir. Alors qu'en plus, j'ai fait la médecine, je suis devenu son idole. C'est pas sain. Ça a fait de moi un jeune homme, médecin, mais orgueilleux et fier de l'être. C'est pas les bonnes valeurs devant Dieu. Dieu n'aime pas les orgueilleux, vous savez. Il a même donné l'épine à la chair de Paul, justement, pour ne pas que l'orgueil soit là. Alors malheureusement, il fallait que Dieu me brise. Et malheureusement, il l'a fait dans le cadre de la médecine. Je suis médecin, et qu'est-ce qui s'est passé? Mes deux parents sont morts tous les deux de cancer, dans des circonstances assez dramatiques. On a pris à la maison, on était jeunes mariés, ma maman qui était paralysée à cause de métastases dans le dos. Et pendant 9 mois, je lui ai injecté de la morphine tous les matins dans le cerveau, directement dans le cerveau, tellement elle souffrait le martyr. C'était terrible. 2 mois après son décès, mon père tousse, je lui fais une radio des poumons, cancer du poumon, il est mort aussi dans quelques mois. Donc en une année, en fait, j'ai perdu tous mes ascendants. J'ai perdu mon père, ma mère, mais les deux derniers grands-parents qui me restaient, je me retrouvais sans ascendant du tout. C'est très perturbant. Heureusement, j'avais ma femme et ma première fille, mais très franchement, j'étais complètement déboussolé. Je me suis aussi rendu compte que je suis devenu malade moi-même. Donc la maladie majeure dont je souffre, c'est du psoriasis. Le psoriasis, vous connaissez sûrement, 3% de la population en sont atteintes. C'est une augmentation de la multiplication cellulaire. C'est comme une forme tumorale, en fait. C'est pas cancérigène, mais la plupart des gens n'en ont qu'un peu sur le coude, le cuir chevelu, les genoux. C'est gênant, on met un peu de cortico, ça suffit. Moi, j'en avais de la tête aux pieds. C'est très douloureux, c'est moche, ça desquame de partout. Partout où je passais, je laissais de la neige artificielle. Et du coup, j'étais vraiment saturé de souffrance. En tant que jeune généraliste installé, je n'arrivais plus à gérer la souffrance des autres. Quand ils avaient mal la tête, pour c'était pas grand-chose. Mes parents venaient de mourir, moi j'étais atteint de la tête aux pieds. Je ne pouvais plus continuer. Et je suis donc rentré dans une recherche d'amélioration de la radiothérapie, puisque j'avais été touché par le cancer. Et pendant 3 années, j'ai voyagé le monde entier en tant que responsable d'un nouvel équipement de radiothérapie. Et c'était très intéressant, c'était très, très, très valorisant. Mais ma femme était seule à la maison, pendant moi, je voyageais le monde entier. Et du coup, on s'est bien rendu compte que familialement, ce n'est pas utile, ce n'était pas vivable. Et à partir de là, Dieu a permis qu'on ait passé, on était en Belgique, à Liège à l'époque, on a passé 3 jours du côté de Béziers. Et la mer et le soleil m'ont vraiment beaucoup aidé au niveau de la peau, ce qui fait qu'on a déménagé, on a quitté la Belgique, ça fait 20 ans maintenant, on vit en France et on est parti sur les bords de la mer de Béziers. Mais après 6 mois, l'effet bénéfique avait disparu et j'ai recommencé à souffrir énormément, à tel point que j'étais quasi suicidaire, parce que je n'arrivais plus à vivre. Dès que je me levais, j'avais ma peau qui se fissurait de partout, je montais à 40 de température, mes propres filles étaient dégoûtées de mon aspect, il y avait vraiment une grande difficulté, aucun traitement, c'était vraiment extrêmement pénible. Et c'est dans ces circonstances, après des années de souffrance personnelle, psychique par la mort de mes parents, physique par ma propre souffrance. Vous voyez, quand je vous ai parlé ce matin de souffrance, ce n'est pas du tout la théorie. Mais Dieu m'a brisé comme ça et m'a montré qu'en fait, je ne contrôlais rien. Moi, je pensais contrôler ma vie. J'ai fait Bac plus 12, je connais mon environnement, je connais la médecine, je sais comment gagner ma vie. Ce n'était pas un problème. Mais je faisais ma vie de mes propres forces. Or, Dieu veut des enfants qui sont sensibles à sa direction. Et je ne l'étais pas. Mais à force d'être brisé, eh bien, Dieu avait mis les circonstances en place. Et un de mes confrères, m'appelle un jour pour m'appeler dans une négociation dans une entreprise médicale. On collaborait régulièrement ensemble. Je ne savais pas du tout qu'il était chrétien. Et dans la voiture, je lui explique un peu nos difficultés. Et il me dit, tu sais, il n'y a que Dieu qui peut fermer certaines portes. C'est pas grand-chose, hein ? Il n'y a que Dieu qui peut fermer certaines portes. Et il parlait des portes de la souffrance, de la pénibilité, des ténèbres en général. Et rien de ces, que ces mots-là m'ont fait pleurer. J'étais surpris moi-même, j'étais le premier surpris, mais l'esprit me préparait. Il l'a vu et il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord d'aller à une réunion de prière ce soir ? Réunion de prière, c'est quoi ? Moi, je ne savais pas. Hein. Je vivais ma vie sans Dieu. Et il m'a dit, fais-moi confiance. Je dis d'accord. On a fait notre journée de travail. On est allés tous les deux après le soir dans notre ville natale. C'est étonnant. Liège, il est aussi liégeois. Et là, il a demandé à deux pasteurs de venir prier pour moi. Lui et sa propre sœur biologique qui est aussi chrétienne. Et à cette réunion de prière, le Saint-Esprit m'est tombé dessus. J'ai vraiment compris que malgré tous mes efforts pour plaire à Dieu, ce que fait la religion en fait, essayer de plaire à Dieu, ben, j'étais à côté de la plaque. J'ai compris que j'étais pécheur et que j'étais loin du but que Dieu m'avait donné pour ma vie. Je me suis repenti. J'ai pleuré toute la soirée. Je n'ai plus du tout ce qu'ils ont prié. Hein. Moi, j'ai pleuré. Et j'ai accepté la grâce de Dieu. Je n'avais pas encore ouvert la Bible. Hein. Mais j'ai accepté la grâce de Dieu. Le soir, il était trop tard pour qu'on vienne. On avait des centaines de kilomètres à faire. On a dormi, je ne sais plus où. Je me suis assis sur le lit et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est bon. Mais qu'est-ce que je fais ? Je garde ou je jette ? Parce qu'on a toujours la liberté. Mais j'ai dit, non, c'est trop bon. Je garde. Et Dieu a changé mon cœur totalement. Une transplantation cardiaque, mais immédiate. Je suis rentré le lendemain. Ma femme a vu à mon apparence, à mon aspect, à mon visage, que j'étais changé. Elle a commencé à pleurer, elle va vous dire pourquoi. Je t'invite, ma chérie, à continuer le côté qui est...
Merci. C'est vrai, quand il est revenu à la maison, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et quand il m'a expliqué, mais c'est vrai, je me suis effondrée. Parce que moi, je suis née dans le milieu réformé, donc j'ai toujours connu Dieu. On allait à l'église tous les dimanches, j'étais à l'école le dimanche, etc. Et jamais j'avais ressenti ce que lui a vécu. Alors, c'est vrai que c'était vraiment un retour en arrière pour moi. J'ai repensé à toute ma vie et malgré que j'allais à l'église tous les dimanches, tout ça, bon, ben, mes parents étaient divorcés. Ils se sont mariés chacun à leur côté. Les couples n'allaient toujours pas ensemble. Enfin, il y avait beaucoup de difficultés de chaque côté. Donc, c'est vrai que c'était pas jojo. En plus, ma mère était alcoolique. Et donc, Dieu, dans tout ça, ben, je ne voyais pas trop. Il n'était pas là, quoi. Mais on allait à l'église. Et puis, bon, c'est vrai que c'était une période, même si je croyais en Dieu, je faisais tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'étais pas différente de non-chrétien. C'était une foi intellectuelle, voilà, foi cartésienne. Et puis, j'avais 19 ans, mon grand-père est tombé malade, et mon grand-père, il avait 60 ans, c'était l'année de sa retraite. Et je me suis dit, Seigneur, il a bossé toute sa vie, il a fait la guerre, maintenant il peut enfin profiter de la vie, tac, le cancer. Et je ne priais pas souvent, et quand je priais, c'était quand ça n'allait pas, donc je me suis mise à prier de tout mon cœur pour que le Seigneur guérisse mon grand-père. Et il l'a pas fait. Pas comme moi j'aurais voulu qu'il le fasse. Et donc je me suis encore plus écartée de Dieu, donc je n'allais plus à l'église. Et quand j'ai rencontré mon mari, qui lui n'était pas du tout croyant, ben voilà, on allait plus, enfin on vivait notre vie ensemble comme on voulait, et tout, voilà, enfin, tout allait bien. Et du coup, quand il est revenu de son rendez-vous, de son voyage, je me suis dit, Seigneur, là il y a quelque chose à faire. Et j'ai prié, vraiment, je dis, Seigneur, je veux vraiment me réconcilier avec toi. Manifeste-toi, fais quelque chose, parce que vraiment, c'est quand je vois la joie, le bonheur qu'il y avait sur le visage de mon mari. Et deux jours après, j'ai fait un songe. Ah, c'était magnifique. C'était vraiment, le Seigneur parlait à travers ce rêve. Et je sentais tout l'amour qu'il avait pour moi. C'était beau, magnifique. Et ça m'a vraiment fait du bien au cœur. J'ai pu aussi faire le deuil de mon grand-père. Après des années, je ne faisais toujours pas, j'avais pas réussi encore à faire son deuil. le deuil. Et puis, ensemble, on s'est retrouvés donc avec le Seigneur, on s'est dit, eh ben, on va aller dans une église. Donc, on est allés ensemble dans une église évangélique, un accueil super chaleureux, c'était vraiment bien. Et j'ai alors commencé à apprendre plein de choses, parce que j'avais quand même ce côté, on ne balaye pas du jour au lendemain tout le bagage réformé que j'avais. C'était tellement intellectuel que voilà, j'avais beaucoup de barrières qui devaient tomber. Et j'ai compris, après un certain temps, en lisant la parole, que je ne lisais pas avant, que Jésus était mort pour moi. Mais ça, je l'ai réformé. On ne m'avait jamais dit que Jésus était mort pour moi. Vraiment, j'ai découvert énormément de choses. Et petit à petit, voilà, le Seigneur a travaillé mon cœur pour balayer ce côté intellectuel. Et par exemple, le baptême, j'étais très réticente à me faire baptiser quand j'ai compris vraiment le message de l'Évangile, parce que je me suis dit, bah, j'ai réformé, j'ai fait ma confirmation, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. Mais voilà, et petit à petit, voilà, Dieu a balayé tout ça. Et par obéissance, je me suis fait baptiser. J'ai vraiment eu cette nouvelle naissance et c'était un nouveau départ avec le Seigneur. C'était super. En plus, on l'a vécu à deux.
Alléluia.
Alors, je laisse poursuivre. Voilà.
Oui, c'est vraiment une grâce d'avoir une conversion comme ça ensemble. Nos filles étaient petites et elles nous ont suivies. Elles ont été impactées aussi par le Seigneur. Elles ont rencontré le Seigneur aussi par après de manière personnelle. Mais c'est vraiment une grâce de pouvoir effectivement rentrer ensemble dans ce cheminement de la foi. Moi donc, je me suis converti à ces réunions de prière fin décembre. Fin mars, je me suis fait baptiser et tout a été très vite pour moi. J'ai tout de suite compris que il n'y avait rien de plus important que la foi. Et j'aurais déjà presque voulu rentrer dans le service, mais là, il fallait un peu plus de temps pour mon épouse. Donc, on a mis vraiment un pause là sur le service. Mais donc, Dieu m'a montré aussi que ce que je faisais n'était pas sa volonté. Je travaillais donc comme consultant. J'aidais les hôpitaux et les entreprises à investir dans la radiothérapie. Et je ne travaillais pas énormément. Je vous avoue qu'en 5 jours de travail, j'avais assez pour le mois. Et on était à la mer... c'était les vacances. Mais Dieu m'a dit stop. Et donc, je me suis baptisé en mars. En mai, juin, je n'ai plus de revenus. Et pendant 6 mois, le Seigneur ne m'a pas montré sa volonté. Mais nous l'avons cherché ensemble. Nous allions à toutes les réunions, à tous les jeunes. Nous cherchions sa face. Nous étudions la parole de Dieu avec une faim et une soif qui est bien décrite dans Matthieu 5, le discours sur la montagne. Une faim, une soif qu'on ne connaissait pas avant. Et Dieu a permis qu'on épuise toutes nos réserves pour se confier totalement en lui. Pendant 6 mois, aucun revenu. Quand on en était au centime pour acheter de la nourriture, le premier discounter à l'époque, c'était Leader Price. On allait à Leader Price pour acheter en priorité pour nos filles. Ça commençait à devenir difficile. À ce moment-là, Dieu a ouvert une porte surnaturelle pour venir en sa voie travailler dans la médecine du travail. Médecine du travail, je ne connaissais pas à l'époque, hein. C'est un travail qui permettait de ne pas avoir de garde, pas de week-end, pas de nuit, et d'être totalement disponible pour nous investir à l'église. C'était des heures de bureau. Et Dieu a permis, comme ça, que mes 15 dernières années d'activité se soient passées dans ce cadre de la médecine du travail. Et pendant cela, notre service pour le Seigneur continuait à grandir. Dany et Moïse sont venus dans notre vie, nous ont vraiment éveillés à l'esprit d'une manière extraordinaire. Nous étions... à Bourgneuf à l'époque, et on a vraiment grandi dans cet esprit de croissance, de joie, de service. Et puis, je vous l'ai dit ce matin pour ceux qui étaient là, à un moment donné, nos filles sont parties, le lit était vide, et mon épouse et moi, on s'est retrouvés en arrêt maladie à la maison. Comme quoi, quand on vit la volonté de Dieu, on n'est pas nécessairement guéri, mais on cherche la face de Dieu. Et c'est à ce moment-là, que Jacques Rigler est venu nous voir. Nous étions à Albertville, on était prédicateurs là-bas à Albertville, on se plaisait très bien. On allait entrer dans la nouvelle salle d'Albertville, on se réjouissait. Jacques Rigler nous demande, tu veux pas aller prendre la responsabilité de Belay, dans la petite salle que... Ah, on voulait qu'on déménage et qu'on parte à Belay. Mais on va pas profiter de la nouvelle salle d'Albertville alors? Oh ben zut alors! On n'avait pas très envie au départ, hein. Et ma femme n'avait pas envie d'aller sur Belay, parce que c'était un peu un coin perdu. Elle dit non, on est bien là, on est bien, laisse aller un autre. Hein. Mais on a prié. Et progressivement, Dieu a éveillé notre cœur à la joie, à la réjouissance de déménager et d'aller sur place à Belay. On a été plusieurs fois visiter les frères et les sœurs. Et Dieu nous a conduits dans la joie, parce qu'on a cherché sa face, parce qu'on a toujours au milieu de nos difficultés, voulu faire sa volonté. Et nous sommes à Belley depuis 3 ans et demi. Et puis Dieu a conduit que nous puissions aussi servir dans le cadre de l'aumônerie. Combien il y a de souffrances dans les hôpitaux, bien-aimés. Quelle souffrance! N'oubliez pas que Jésus a dit, celui qui apportera un verre d'eau au plus petit des miens, qui a été le visiter à la prison, le visiter à l'hôpital quand il était malade, ça ne sera pas enlevé. Combien d'âmes sont en perdition? Combien nous avons été appelés des gens qui sont en fin de vie? Je me souviens particulièrement de cette dame, jaune paille. Son foie avait arrêté de fonctionner. Il lui restait quelques heures. Mais c'est une dame qui avait une culture catholique, un peu charismatique. On a chanté avec elle et voilà, c'est des moments qui sont puissants parce qu'on sent vraiment que Dieu prépare à se recevoir une âme. Et n'oubliez pas que Jésus a dit, j'ai sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Sur terre. C'est ici qu'il faut agir. Et Dieu a conduit comme ça tous nos cheminements. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être bénévoles pour l'Église, pour l'aumônerie. Et c'était la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, on peut continuer à travailler. La tentation du travail est parfois quelque chose d'important. Pourtant, Dieu nous appelle, et je vous invite dans la parole de Dieu, parce que c'est quand même la parole qui est notre guide du matin au soir et du soir au matin, je l'espère, jusque dans l'éternité. Dans Marc 8, à partir du verset 34, Marc 8, verset 34, il nous est dit, Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Il y a donc déjà une notion, comme nous l'avons dit ce matin, de souffrance. Chacun sa croix, oui, mais sa croix en fonction de la volonté de Dieu. En fonction de la volonté de Dieu. En effet, ce verset 35, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Je répète, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Rappelez-vous, l'homme n'a aucune capacité à se sauver. J'ai essayé jusqu'à Bac plus 12, je n'y suis pas parvenu. Et plus j'ai appris, et plus j'ai compris qu'on ne connaissait rien en fait. Vous savez, quand on commence à vraiment chercher, on voit qu'on ne connaît rien. Moi je suis très, très humble, je suis rendu très humble par rapport à la connaissance médicale. On fait beaucoup de choses pour essayer d'aider, mais au final, c'est chaque fois un miracle que la vie reprenne. C'est le miracle de Dieu. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, c'est le seul endroit où c'est dit par ailleurs plusieurs fois dans les autres évangiles, notamment Matthieu et Luc, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Mais ici, c'est à cause de moi et de la bonne nouvelle. Evangelios, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le salut est offert. La grâce est offerte à tous les condamnés à mort que nous sommes, parce que nous avons tous péché. La bonne nouvelle, c'est que la grâce est offerte. Et il n'y a rien à faire pour gagner cette grâce, si ce n'est l'accepter. Wow. Ce n'est point par les œuvres, nous dit Paul en Éphésiens 2, c'est par grâce, afin que personne ne se glorifie, mais dans un but, afin de pratiquer les fruits prévus à l'avance. Il y a donc toujours un but et une finalité. Mais à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Eh oui, s'il perd son âme. Que donnera un homme en échange de son âme? Parce que la finalité, elle est là. Elle est là. C'est notre âme. C'est le souffle de vie que Dieu a mis en nous, qui est éternel, que vous y croyez ou pas. Et je le dis souvent aux gens qui sont dubitatifs et qui ne croient pas à la vie après la mort. Mais vous savez, tous ceux qui ont fait des expériences proches de la mort racontent tous la même chose. Quel que soit l'endroit dans le monde, quelle que soit la culture, quels que soient les produits chimiques qu'ils ont reçus, ils disent tous la même chose. Cette grande lumière blanche, c'est qu'il y a une réalité. Alors, questionnez-vous. Et plein de gens athées, je leur dis, mais vous avez une foi incroyable, pourquoi qu'il n'y a rien d'autre? Demandez à un bébé dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il croit, lui, à la vie après l'accouchement? Il n'y a jamais personne qui est venu pour m'en parler, dira-t-il. Et il a raison. Personne n'aurait retourné dans l'utérus pour dire « Tiens, tu sais, il y a 80 ans qui t'attendent après tes 9 mois. » Pas faux, hein ? Et puis il s'est dit « Ben, et moi, la mère, je n'ai jamais vu la mère. » Mais la mère, elle est tout autour de toi. Et si tu te tais un peu, tu l'entendras chanter. Si on projette ça un peu plus loin, Jésus est venu nous dire que nos 80 ans en moyenne sur Terre nous préparent à l'éternité. Et si on se tait un petit peu, on peut entendre le Saint-Esprit qui vient susurrer, nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et nous permettre de nous conduire à accepter la grâce en Jésus-Christ pour choisir le bon chemin, l'éternité dans sa présence. Sinon, on risque de passer l'éternité loin de sa présence, et ça, c'est une zone de tourment et de souffrance que je prie que personne ici présent ne vive, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, malheureusement. Alors donc, je vous avais dit ce matin que j'allais faire une illustration corps, âme, esprit. Alors c'est vrai qu'il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a dit très justement que 1 Thessaloniciens 5, 23 parle d'un ordre particulier. 1 Thessaloniciens 5, 23, je vous le lis, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, vous voyez, c'est inversé par rapport à ce que je dis, hein, il y a effectivement une couleur médicale, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, je pense qu'une illustration vaut parfois mieux que des milliers de mots. Alors, est-ce que je pourrais demander à deux hommes de venir sur scène pour qu'on puisse faire cette illustration ? Deux hommes ? Volontaires ? Ou désigné. Bon. Mon frère, allez, viens. Tu viens? Voilà. Ouais, j'ai pris des grands, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Il y en a un à ma droite et un à ma gauche, s'il vous plaît. Voilà. Un à ma droite et un à ma gauche. Je vous présente David. Le corps, l'âme, l'esprit. Vous comprenez ? Corps, âme, esprit. Dans notre situation naturelle à la naissance, est-ce que je peux te demander de t'asseoir ? D'accord. Oui, c'est bien, c'est bien. Dans la situation naturelle que nous vivons, nous avons l'habitude de grandir et de vivre en étant à l'écoute des besoins de notre corps. Vous savez, j'ai choisi un corps jeune. Pour une fois que j'avais le choix d'avoir un corps jeune, j'en profite. Et donc, le vrai nous, le souffle que Dieu a mis en nous, notre âme, est habitué à se tourner tout le temps vers les besoins du corps. J'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de dormir, j'ai envie d'aller jouer, T'as envie de plein de choses, hein, oui. Oui. Je n'en doute pas. Et on est habitué à répondre aux besoins du corps et à écouter le corps, et on est tourné vers notre soi. Mais du coup, on n'a pas la vie de Dieu qui est vivante. Elle est là, mais elle n'est pas vivante. Elle est morte. Si nous passons toute notre vie sans être à l'écoute du Saint-Esprit, sans être à l'écoute de l'Esprit de Dieu en nous, on va passer à côté de notre vie. Et l'éternité, où va-t-on la passer ? Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une fois. Le bios, il est là. On en a parlé ce matin. Le bios, il est là, il va retourner à la poussière. Et quand lui va mourir, lui n'est pas vivant. Et du coup, où vais-je aller ? Mais en enfer, bien-aimé. En enfer, parce que je n'aurais pas laissé l'occasion à Dieu de me transmettre son zouet, sa vie spirituelle. Et c'est grave. Et c'est là que nous avons besoin d'être attentifs à l'Esprit Saint qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et tout homme qui écoute la parole de Jésus, Jésus lui dit, celui qui croit en moi et qui écoute ma parole passe de la mort à la vie. Il m'a fallu un certain temps aussi pour comprendre ça. Mais je suis vivant. Alors pourquoi il dit que je passe de la mort à la vie ? Parce que dans l'état où nous sommes tous les deux, ben on est mort spirituellement. Mais à partir du moment où on croit en Jésus et qu'on accepte sa grâce, ça y est, tu peux te relever. Ça va, c'est pas été trop dur ?
Ça va.
On passe de la mort à la vie spirituelle. Alléluia ! Et ça, c'est la promesse de l'éternité. Et là, à ce moment-là, commence dans notre vie, ici-bas, un corps à corps. Un corps à corps, hein, puisque on n'est qu'un seul corps, là. Il va falloir que je commence à moins écouter les besoins de mon corps, désolé, hein, et que je me tourne plus vers l'Esprit de Dieu, en moi. Et à partir du moment où je commence à me détourner de mon corps, j'entre dans cette sanctification dont parle l'apôtre. Il nous faut être à l'écoute continuellement de l'Esprit, se détourner des besoins du corps et être à l'écoute de l'Esprit. Oui, mais malheureusement, le bios, il est encore malade régulièrement. Aïe, tu me fais mal. Aïe, ça tire par-ci. Ouh, ça fait mal par-là. Ouh, je suis fatigué, hein, je vais dormir. Ben oui, j'ai faim. J'ai soif. On a encore toutes ces sensations. Même si l'Esprit de Dieu est vivant en nous et que je veux être à l'écoute, être équipé de plus en plus et que la puissance me soit transmise par le Saint-Esprit pour faire sa volonté, agir selon sa volonté, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours un corps à corps, un combat dans notre chair entre les besoins du bios et la volonté du zoé. Est-ce que vous comprenez? Allô? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez cette réalité spirituelle? Cette illustration est là pour nous permettre de comprendre que sans la mort à la vie spirituelle, notre devenir éternel est loin de Dieu. Parce que nous sommes simplement liés au bios et qu'on n'est pas réveillé à l'Esprit de Dieu. Donc ce qui est important, c'est que vous laissiez un jour Dieu vraiment révéler la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, le zoé de Dieu, et que vous laissiez de plus en plus continuer à vous laisser inspirer, imprégner, venir auprès de Dieu, c'est se tourner, se détourner de tout ce qu'il demande. C'est pour ça le jeûne et prière dont on parlait tout à l'heure, on se détourne des besoins de notre corps pour nous tourner avec plus d'avantage de temps, d'énergie vers l'Esprit de Dieu. Être à l'écoute, se laisser diriger. Et c'est là que Dieu dirigera notre vie par sa puissance et par sa volonté. Amen. Et donc finalement, je vais te demander quand même de t'accroupir, la vie chrétienne sanctifiée, c'est cette position. Mourir à soi-même, mourir à son corps, mourir à sa propre volonté et vivre une vie sanctifiée, tournée vers l'Esprit et équipée de tout ce que Dieu veut nous équiper pour faire sa volonté. Amen. Merci les frères, que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça vous parle? La finalité de tout ça, vous l'avez compris, hein, c'est préparer notre éternité. Ce n'est plus moi qui vis, nous dit Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, corps, âme, esprit, ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Lui-même. Bien-aimé, il n'y a aucun d'entre nous qui seront connus justes devant le Seigneur. J'espère que ça, c'est bien clair dans nos têtes. Parce que quel est celui qui peut dire « je n'ai jamais menti » Et s'il y en a un qui lève la main, ben c'est probablement au moins son deuxième mensonge de sa vie. Hein. Qui est-ce qui n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartenait pas? Ne fût-ce que 5 minutes au boulot, un appel au boulot, une photocopie, sans demander l'autorisation au patron? C'est vite fait. Hein. Donc ça fait de nous, je m'arrête là, ne vous tracassez pas, parce que je ne vais pas faire le 10 commandements. Hein. Mais ça fait déjà de nous des menteurs et des voleurs. Hein. Est-ce que Dieu voudrait passer l'éternité avec des menteurs et des voleurs comme nous? C'est peu probable. Et donc, condamnables que nous sommes à l'éternité loin de Dieu, Dieu a organisé un plan de salut par amour pour nous. Il a envoyé une victime expiatoire. Alléluia. Par son sang, nous sommes pardonnés. On l'a dit ce matin, par son sang, nous sommes guéris. Guéris de quoi? Ben, du zoé qui n'était pas vivant. Nous sommes condamnés, mais graciés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, vous, d'un condamné à mort dans les prisons américaines, par exemple, qui attend son exécution et puis qui reçoit sa grâce présidentielle? Nous, c'est royal, divine. Est-ce qu'il la refuserait? Est-ce qu'il dit « Ah non, 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 moi je vais aller jusqu'à la siège électrique, hein, votre grâce, vous la gardez. » C'est peu probable quand même. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il va l'accepter, sa grâce, et il va repartir libre. C'est la même chose pour nous. Si nous comprenons qu'il n'y a aucun d'entre nous qui sont reconnus justes, on est condamné à mort. C'est la mort, c'est quoi? Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire l'éternité loin de Dieu. Voulez-vous accepter la grâce? Elle est là la question, bien-aimé. La grâce vous est offerte simplement si vous l'acceptez avec foi. Et quand j'ai été convaincu de péché dans cette réunion de prière, le soir sur mon lit, j'ai eu cette possibilité de la refuser. J'ai eu cette possibilité de la rejeter parce que mon intellectuel est là, parce que l'ennemi est venu troubler et me mettre le doute. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je garde? Est-ce que je jette? Mais par la grâce de Dieu, merci Seigneur, j'ai dit je garde. Et ça me dépassait, je n'avais pas idée de l'ampleur dans laquelle je rentrais en acceptant ce cadeau immérité. Mais quelle joie bien-aimée. Mes filles maintenant servent le Seigneur, une en Belgique, une au Canada. Pouah, ça a changé toute notre vie. Et on a bien plus de joie, je peux vous dire, à être des aides-soignants, les plus grands des médecins, qu'avant moi en médecine. On a bien plus de joie, parce que la joie du Seigneur est immense. Alors je conclurai de nouveau par la parole, si vous voulez bien, que chacun se sente concerné, que chacun se sente appelé personnellement. Si vous avez déjà dit oui, il faut le redire quotidiennement, venir repentant quotidiennement auprès de notre Seigneur. Romains, chapitre 8, à partir du verset 9. Quant à vous, bien-aimés, vous n'êtes pas animés par vos natures propres. On n'est plus animé par le bios, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins le zoé de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Entendez-vous ça, bien-aimé? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'appartient pas encore à Christ et qui veut donner sa vie? Seigneur, viens le convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le bios, il va partir. Mais votre esprit est en vie à cause de la justice. Et verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ vous rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Le zoé, l'esprit de Dieu en nous, rend la vie à l'ensemble du corps. Et nous aurons encore glorifié, non plus handicapé par un bios, mais complètement glorifié auprès de Dieu pour l'éternité, sans douleur, sans maladie, sans peine, sans ténèbres. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui veut prendre une réservation là-haut? Moi, en tout cas, j'ai pris ma réservation. Seigneur, garde-nous, conduis-nous, protège-nous et que nous puissions être fidèles à rester sur ce chemin. Y a-t-il quelques-uns ici qui ont besoin vraiment de rencontrer Jésus? Y en a-t-il ici qui n'ont pas encore accepté cette vie spirituelle, ce zoé, cette énergie, et qui ont besoin de le rencontrer? Levez la main là où vous êtes. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu vous voit. Les enfants même peuvent lever les doigts, oui. Que Dieu bénisse. Voulons prier pour vous. Vraiment vous aider à recevoir la grâce que Dieu a prévue pour vous. Et pour chacun de nous, que Dieu nous aide à vraiment être à l'écoute de l'esprit, du zoé, et que nous puissions de plus en plus ne plus être à l'écoute du bios, et vraiment tourner vers Dieu, vers son esprit. Amen. Nous prions ensemble.